cette montagne aussi impressionnante que le Sinaï?
C'est le mont Carmel, l'une de nos plus belles montagnes. C'est là que le prophète Élie affronta d'autres prophètes attachés au service des faux dieux.
Des dieux qui n'étaient pas des vrais?
Exactement. Je vais te raconter la célèbre victoire du prophète qui lui valut l'admiration de tout le peuple. Élie de Thisbé avait prédit au roi qu'une effroyable sécheresse ravagerait le pays. 3 ans durent coûteux. Ce fut la désolation générale. Enfin, le Seigneur appela son ami, le prophète Élie.
Présente-toi au roi, je vais envoyer la pluie sur la terre.
Le prophète entra chez le roi et lui reprocha sans ménagement de s'être détourné de Dieu. Puis il ajouta,
rassemble tout le peuple sur le mont Carmel. Convoque également les 1000 prophètes de ta femme, la reine Jézabel, qui se sont placés au service des faux dieux.
Il en fut ainsi. Élie s'avança seul au devant de l'assemblée qui recouvrait la montagne et lui adressa ces paroles.
Sur quel pied voulez-vous danser? Il est temps de choisir votre dieu. Je suis seul et vous êtes 1000. Et maintenant faites ce que j'ordonne. Prenez 2 jeunes taureaux. Tuez-les et dépecez-les. Installez 2 bûchers et disposez des animaux dessus, mais n'enflammez pas le bois. Chacun de nous invoquera son Dieu et le priera d'allumer son bûcher avec le feu du ciel. Le Dieu véritable se manifestera.
Les adversaires d'Élie se mirent à implorer leur Dieu avec de bruyantes invocations. Ils poussèrent des cris de l'aube jusqu'à midi. Ils s'épuisèrent pour rien. Le ciel ne s'ouvrit. Ils se mirent à danser pour attirer l'attention de leur dieu, en vain. Élie se moqua d'eux.
Votre dieu doit dormir, criez plus fort, vous le réveillerez peut-être.
Alors, les faux prophètes se flagellèrent jusqu'au sang en hurlant, mais le ciel demeura impassible. À son tour, Élie de Thisbé s'approcha du bûcher. Il se fit un grand silence. Le vrai prophète se plaça debout devant l'autel de bois et pria ainsi.
Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, réponds aujourd'hui à l'appel de ton peuple, trompé par des menteurs et des infidèles. Qu'ils sachent que toi seul es Seigneur. Tourne vers toi le cœur d'Israël.
Sur le champ, le feu du ciel tomba comme la foudre et dévora à la fois le bois et la victime. Tout le peuple se prosterna aussitôt dans la poussière en criant
« Le Seigneur Yahvé est le seul Dieu vivant !»
Le feu du ciel descend sur nous, comme l'amour il est si doux. C'est lui qui fait la lumière et qui fait tourner la terre.
Il met dans l'âme du soleil 1000 rayons jamais pareils.
L'amour de Dieu c'est l'amour fou, l'amour de Dieu enflamme tout.
L'amour de Dieu c'est l'amour fou,
l'amour de Dieu enflamme tout.
Élie sur le mont du Carmel a dit aux enfants d'Israël, arrosez d'eau ce tas de bois,
si Dieu le veut, il flambera.
Il peut jaillir dans le désert, dans un cœur plus froid que l'hiver.
Et quand il semble éteint, alors on peut le voir surgir encore.
Et quand il semble éteint, alors on peut le voir surgir encore.
Le feu du ciel descend sur nous, comme l'amour il est si doux. C'est lui qui fait la lumière
et qui fait tourner la terre.
Qui met dans l'âme du soleil 1000 rayons jamais pareils.
L'amour de Dieu c'est l'amour fou, l'amour de Dieu enflamme tout.
L'amour de Dieu c'est l'amour fou,
l'amour de Dieu enflamme tout.
La foule saisit alors les 1000 faux prophètes et les précipita dans le ravin le plus proche. Puis, Le prophète Élie dit aux serviteurs du roi:
monte au sommet du Carmel, regarde vers la mer, écoute l'averse qui vient comme un bruit d'orage qui marche depuis l'horizon.
Brusquement, le ciel s'obscurcit et une pluie généreuse tomba sur tout le royaume. Le roi raconta à sa femme Jézabel la victoire du Dieu d'Israël. Élie, redoutant la vengeance de la terrible reine, s'enfuit au désert. Épuisé par le voyage, il s'endormit sous un genêt. À son réveil, il trouva près de lui une galette et une cruche d'eau. Il comprit que Dieu avait veillé sur lui et il l'en remercia. Réconforté, le prophète marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Moïse dans le désert du Sinaï. Il pria encore avec l'ardeur propre aux amis de Dieu. Il entendit alors cette parole:
je suis Yahvé, ton Dieu. Sors sur le seuil de ta grotte. Tiens-toi debout. Je passerai devant toi.
À ces mots, se leva un ouragan violent qui fracassait les rochers et semblait même déraciner les montagnes. Mais le Seigneur n'était point dans la tempête. Après le vent survint un brutal tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le séisme. Après ce fléau s'alluma un gigantesque incendie qui dévora le paysage jusqu'à l'horizon. Mais le Seigneur n'était pas. Après cet énorme fracas, Élie perçut un bruissement comme le murmure d'une brise légère. Il sentit alors que Yahvé allait passer. Par égard pour Dieu, le prophète se voila le visage à l'aide de son manteau. Il entendit soudain la voix du Seigneur:
reprends ta route vers le désert de Damas et va voir Élisée. C'est lui qui te succédera comme prophète en Israël.
Le père d'Élisée possédait un vaste domaine, 12 paires de bœufs et des troupeaux de moutons. Ce jour-là, Élisée labourait un champ dit le pré de la danse. Élie arrêta l'attelage et jeta son manteau sur les épaules du jeune laboureur. Élisée abandonna ses terres et suivit le prophète. On raconte qu'Élie fut enlevé au ciel, à travers la tempête, tandis qu'il se promenait en compagnie d'Élisée, son successeur. Les deux hommes se tenaient au bord du fleuve qu'on appelle le Jourdain. Élie enleva son manteau, le roula comme un bâton et en frappa les eaux. Un chemin s'ouvrit et ils traversèrent à pied sec. Dès qu'ils furent sur l'autre rive, voici qu'un char de feu tiré par des chevaux flamboyants atterrit près du prophète comme la foudre, puis s'envola en l'emportant. Demeuré seul, Élisée ramassa le manteau d'Élie, refit le même geste que lui et retraversa le Jourdain dans l'autre sens. Depuis lors, les gens disaient:
l'esprit d'Élie repose sur Élisée.
On n'en finirait pas de raconter les actions merveilleuses du prophète Élisée. Il a multiplié les pains, ramené un enfant mort à la vie, guéri un lépreux. Lorsque, devenu vieux, il tomba malade, le roi Joas vint lui rendre visite. Le prophète avait été conseillé à la cour des rois. Joas pleura longuement, la tête appuyée contre la joue d'Élisée. Puis, en guise d'adieu, il le recouvrit du magnifique manteau d'Élie, le prince des prophètes. Élisée s'endormit dans la paix du Seigneur, en rêvant à tous les autres prophètes qui viendraient après lui rappeler aux hommes que Dieu est vivant et qu'il nous aime.
Tu peux me raconter d'autres histoires de prophètes ?
Oui, David. Écoute la voix d'Isaïe, le prophète sans doute le plus célèbre d'Israël. C'était un grand poète,
Voici l'un de ses plus beaux poèmes, celui de la vigne.
Mon ami possédait une vigne sur un coteau ensoleillé. Il en ôta ronces et pierres. Il bâtit une tour pour la protéger et un pressoir pour vendanger. Il attendait de beaux raisins et ne trouva que grappes amères. Mes amis, je vous le demande, pouvais-je l'aimer davantage? Pourquoi ma vigne est-elle vilaine?
Le prophète a eu du chagrin.
Il exprime ainsi le chagrin de Dieu, qui se plaint de l'ingratitude des hommes. Israël, c'est la vigne de Dieu. Comprends-tu?
C'est une vision?
Non, c'est une image. Mais la vie d'Isaïe commence par une vision magnifique dans le temple de Jérusalem.
Cette année-là, le roi Ozias mourut après un règne interminable de 41 ans. Isaïe appartenait à une famille influente de Jérusalem et il fréquentait les rois. Il ignorait encore qu'un jour, il deviendrait prophète et qu'il annoncerait le Messie.
Le Messie? Qu'est-ce que c'est?
Celui que tout le monde attend, chaque jour de la Bible. Le roi juste dont les patriarches ont rêvé. Le libérateur que les prisonniers ont appelé derrière leurs barbelés. Le saint que les prophètes ont annoncé.
Est-ce qu'Isaïe a vu le Messie avant de mourir?
Non, David. Les prophètes n'entrent jamais en terre promise. Mais, à force de l'attendre et de l'annoncer, il a deviné les traits de son visage.
Le Messie ressemble-t-il à Dieu ou aux hommes?
Il a l'esprit et la beauté de Dieu, mais en même temps, il a le visage et la souffrance des hommes.
Pourquoi souffre-t-il?
Parce qu'il prend sur lui le malheur des hommes.
Tout le malheur de la terre?
Oui, David. C'est pourquoi le prophète Isaïe le décrit comme un grand malheureux. Imagine-toi le malheur en personne. Écoute le poème d'Isaïe sur cet homme au service des hommes.
Cet homme, je le vois perclus de douleur. Il ressemble à une racine arrachée. Il n'a rien pour plaire, rien pour réjouir. On l'a laissé tomber du côté du malheur. C'est notre méchanceté qu'il porte. Ce sont nos fautes qui l'écrasent. L'homme tombe aux mains de brute, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir, comme le mouton sous le couteau du boucher. Il n'a pas un mot de plainte ou de révolte.
Dis-moi le nom du Messie.
Il est encore trop tôt. Isaïe t'indique déjà dans quelle direction il faut l'attendre.
Jérusalem, redresse-toi et deviens lumineuse. Sur toi le Seigneur comme l'aube va se lever. Vois, les rois montent vers ta clarté. Une nuée de caravanes te recouvre. Qui sont ces gens qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? Les îles lointaines s'embarquent vers toi, précédées des lourds vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, on tiendra tes portes ouvertes. Je ferai de toi la fierté des siècles. Il n'y aura plus de violence dans le pays, ni de bruit de guerre aux frontières. Ce ne seront ni le soleil, ni la lune qui présideront au jour ou à la nuit, mais le Seigneur lumière pour toujours. Je vais forger des cieux nouveaux et bâtir une terre toute neuve. On ne ressassera plus les mirages du passé. Je vais créer la joie et la fête éternelle. La joie, c'est Jérusalem. La fête, c'est mon peuple.
Comment Isaïe a-t-il su qu'il était prophète?
Dieu l'a averti par une vision. Personne, bien sûr, ne peut voir Dieu. Mais Dieu peut faire sentir sa présence et même donner un reflet de lui-même. Dieu se manifesta donc à Isaïe un jour où celui-ci entrait dans le temple de Jérusalem. Il se laissa entrevoir au prophète sous les apparences d'un roi assis sur un trône éblouissant et drapé dans un manteau de soleil. Au-dessus de cette gloire se tenaient des êtres étrangement beaux qui scintillaient comme l'éclair et qui semblaient cacher leur corps derrière des ailes. Ces personnages merveilleux, qu'on appelle séraphins, formaient une sorte de ciel lumineux et se répondaient les uns aux autres.
Saint, Saint, Saint Yahvé notre Dieu, le monde entier raconte sa gloire.
Isaïe se sentit écrasé et incapable de dire un mot. Il se trouvait indigne d'une telle révélation. Mais voici que l'un des êtres de feu se détacha du cortège et lui toucha les lèvres avec une braise. Au même instant, la voix du Seigneur tomba du trône.
« Qui vais-je envoyer parler à mon peuple ?»
Sans hésiter, Isaïe répliqua
« Voici, envoie-moi. »
Le voyant sortit du temple. Il ressentait en lui une force qu'il n'avait jamais connue. Alors, le roi affolé accourut à lui et lui confia ses craintes. Les ennemis étaient aux portes de la capitale et risquaient d'anéantir Jérusalem et tout Israël. Isaïe le rassura.
Dieu va donner un signe à son peuple. Je vois une jeune fille qui devient mère. J'entends le nom de l'enfant, Emmanuel. Je comprends ce nom merveilleux. Dieu avec nous.
Emmanuel, c'est le Messie ?
C'est l'un des noms que la Bible lui donne, David. C'est comme si Isaïe avait dit au roi, « Un enfant de sang royal va naître. Il réalisera le rêve de Dieu et des hommes. Plus tard, tout s'éclairera. » À peine Isaïe avait-il prononcé le nom d'Emmanuel, qu'il fut saisi d'une joie céleste et composa ce poème.
Le peuple piétinait dans une épaisse nuit. Mais la clarté s'est levée sur le sombre pays. Chacun s'est réjoui, comme au jour d'une naissance. On a dansé de joie, comme au temps des moissons. Car voici qu'un enfant nous est né et qu'un fils de roi nous est donné. On l'appelle du nom de Messie. Son royaume se nomme paix et justice. De la vieille souche, un rameau surgit. L'esprit de Dieu monte en lui comme la sève. C'est bien le Messie, puisqu'il défend le faible, puisqu'il est l'ami du pauvre et de l'opprimé.
Le prophète Isaïe l'avait dit. Aux lointaines années du passé, un jeune enfant, quelques jours avec son amour, viendra comme un messager, viendra nous sauver.
Il va venir, c'est bientôt l'heure. Il va venir. La joie demeure, que de nos cœurs tombent les chaînes, s'enfuit la peur, et aussi la peine.
Dans ce monde de méchants, chassera les puissants, les tyrans. Que ces deux petites mains nous portent enfin, sans glaive ni sans épée, la vie et la paix.
Il va venir, c'est bientôt l'heure. Il va venir, que la joie. De nos cœurs, dans
si la peine.
Voici le temps où mon roi vient vers moi. Il sera humble et doux parmi nous. Monté sur un pauvre ânon, je ne sais son nom. Mais il sera mon sauveur, la joie de mon cœur.
Il va venir, c'est bientôt l'heure. Il va venir, que la joie demeure, que de nos cœurs.
L'annonce du bonheur pour toujours.
Oui, David. Isaïe prophétise la paix et l'amour de Dieu partagé par tout le monde. Mais ce qu'il entrevoit là se situe au fond de l'horizon, dans la lumière de l'espérance. En attendant ce grand matin, les hommes continuent d'avancer dans la peur et les luttes.
En effet, au moment où Isaïe annonçait l'Emmanuel, une nouvelle guerre menaçait son pays. Il fut averti par Dieu des malheurs qui allaient encore frapper son peuple. Ce jour-là, le prophète monta sur la montagne et regarda vers le nord. Déjà, à ses yeux, l'armée du roi de Ninive s'avançait et s'installait devant Samarie, ville sœur de Jérusalem. Le siège devait durer 3 ans. Quand Samarie capitula, le vainqueur ordonna
« Qu'on amène à Ninive tous les habitants de la ville et qu'on les remplace ici par des colons de chez nous. »
Ce fut un jour de deuil pour Samarie et un jour d'angoisse pour Jérusalem. Au milieu des malheurs et de la guerre, Isaïe resta debout, prêchant la lumière dans la nuit et chantant la fraternité au milieu des champs de bataille.
Voici que nos vignes s'étiolent, le vin manque et la joie s'évanouit. La ville est comme un vignoble vendangé. Mais Dieu prépare pour tous les peuples un fabuleux banquet, un festin sans fin. Il a ôté la honte, essuyé toute larme. Je vois le Messie déclarer la paix au peuple. Je vois venir le temps où les fils des hommes, reforgeant leurs épées, en feront des socs. Recourbant leurs lances, en feront des serpes. On ne brandira plus le cimeterre. On ne fera plus jamais la guerre.
Et même Isaïe, le prophète du cœur de Dieu, imagine une grande fête où tout le monde danse, où il n'y a plus d'animaux méchants, où fleurit le bonheur du premier jardin.
Le loup et l'agneau auront la même maison. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau mangeront ensemble. Un tout petit garçon les mènera paître. La vache et l'ours auront même pâture. Et leurs petits gîteront au même terrier. Le lion broutera avec son ami le bœuf. Le bébé jouera sur le nid du cobra. Et l'enfant pourra toucher la vipère. Car l'amour de Dieu emplira le cœur de tous, comme les eaux du ciel et de la terre s'étreignent dans la mer.